Yin Yang de la SF.
La troisième édition, c'est bien ça, de Miroir du Futur.
Quatrième.
99, 2000,
2010 et 2011.
D'accord. D'où est venue l'idée de faire un festival ?
De la rencontre entre deux passionnés autour d'une tasse de café. C'était l'année de sortie de Matrix, Cube, Existence. Et le gérant du cinéma de Civray avait décidé de faire une semaine spéciale science-fiction. Moi-même, libraire à l'époque avec mon mari, rêvais de faire un salon de science-fiction. Donc je lui ai dit, pourquoi ne ferait-on pas les deux en même temps ? On a topé là et c'est parti. C'était l'été fantastique de 1999.
D'accord. Et il y avait déjà des écrivains ?
À l'époque, je ne me rappelle plus vraiment lesquels étaient venus dans le tas. Mais on avait Freddy Woods, on avait Wagner, Denis, Yan Min et une belle brochette quand même quand on compte tenu que c'était un premier festival fait par une passionnée mais qui ne connaissait pas plus que ça.
Tu ne connaissais pas plus que ça les festivals mais tu avais déjà des contacts dans le milieu ?
Oui et non, dans la mesure où j'étais sur SF Franco, sur Noosphère. Il faut dire qu'à l'époque, c'était le début d'Internet, donc c'était vraiment réservé, je ne veux pas dire à une élite, mais vraiment à des passionnés. Je me rappelle de Francis Valéry, entre autres. Et c'est parti comme ça. Je pense, si je me souviens bien, en passant une annonce, je fais un festival, qui veut venir ? Mais franchement, je n'ai plus de souvenirs de cette période-là. Non,
c'est pour savoir, parce que quand même, cette année, tu as un sacré panel d'auteurs invités. Il y a eu du beau monde, hein.
Oui, et le pire, c'est que je ne m'en rends même pas moi-même compte. Parce que ce sont devenus des copains. Parce qu'il faut dire qu'au début, nous étions libraires, donc nous avions fait le salon de Montmorillon, entre autres salons. Et quand il y avait un auteur de science-fiction, je disais, c'est pour moi. Et j'avais le plaisir de l'avoir, comme Brice Tarvel, qui était venu à Civray également. Et puis d'autres dont je ne me souviens plus vraiment du nom. Mais donc, comme ça, avec le biais de, je ne veux pas dire d'une reconnaissance du milieu, mais je pense que ceux qui étaient venus sur notre stand étaient bien accueillis, voulaient revenir. Ceux qui étaient venus à Montmorillon avaient accepté de revenir à Civray. D'autres s'étaient raccrochés en disant « je n'habite pas loin, je veux venir, est-ce que je peux venir ?» Tout à fait d'accord. Et puis, bah, c'est parti comme ça, vraiment par un... Une synchronicité, j'ai vraiment bénéficié de beaucoup de chances, d'éléments qui se raccordaient, qui faisaient clic-clac-clac, j'avais besoin de quelqu'un, il venait à ce moment-là et ça s'est passé comme ça, mais naturellement.
Est-ce que hier, tu as eu quand même un scoop si on peut dire, une manifestation assez exceptionnelle par la présentation de Yan Min ? Tu peux m'en parler un peu ? Je ne l'ai pas vu.
Moi, je ne l'ai pas vu entièrement parce que, en tant qu'organisatrice, j'ai aussi des impératifs dus à la logistique. J'ai vu la seconde partie sur le cybersexe qui a fait jaser beaucoup. Mais là encore, je me suis rendu compte a posteriori que nous avions une chance énorme parce que c'est une conférence que Yann vend... Un peu partout, c'est vrai, étant la troisième ville de France après Lille et Paris. Et nous avions invité Yann déjà il y a 10 et 11 ans et on l'avait réinvité là en lui disant tu viens, tu exposes, tu fais ce que tu veux, une conférence, mais libre à toi, c'est histoire qu'on se retrouve entre copains, que tu sois là, que ça soit sympa, qu'il y ait un peu de numérique, voilà. Non seulement il est venu, il nous a fait le très très grand plaisir de nous offrir sa conférence sur le Noho Museum,
ouais.
Mais en plus, dans un premier temps, il nous a proposé de faire une conférence sur le cybersexe. Donc contrairement à ce que l'on peut penser, ce n'est pas pornographique, mais c'est vraiment l'histoire, la prospective, le futur des mondes virtuels et notamment du sexe, donc du cybersexe. Plus qu'une qu'une accroche pornographique ou autre. Ouais. Et, mais malgré tout, avec en prime une performance de la cyber-performeuse Wasik S, qui est également une photographe de très grand talent, qui nous a présenté en direct live ce que c'était que le cybersexe. En nous présentant d'une part sa galerie virtuelle dans le Nouveau Monde et d'autre part en nous expliquant ce qu'elle ressentait avec un dildo télécommandé par Monde Virtuel. On est sur le scoop, sinon, c'est qu'on a eu un conteur, créateur de contes, Michel Cordebeuf, qui est originaire du Poitou, qui nous a fait lui aussi la surprise de créer à Civray, dans ce festival, la première de son futur spectacle, enfin de son nouveau spectacle, Légendes en Poitou, avec des légendes sur Jean Desloups, Mélusine et autres contes et légendes, plus ou moins du terroir, plus ou moins du coin. Vraiment, ça a été quelque chose de grandiose, qui a très bien marché auprès des scolaires, puisque la première fois a été créée en partie avec des scolaires qui nous ont fait des œuvres graphiques sur le thème du festival. Et le lendemain, donc hier, il nous a vraiment fait son spectacle en entier.
Bonjour, bonjour. Je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites, mais de quoi elle nous parle, Flo ? En effet, la semaine dernière, il y avait la 10e édition des Imaginales d'Épinal et elle nous parle de Civray. Civray, un festival qui s'est déroulé les 7 et 8 mai dernier. J'avais envie de revenir sur ce festival fort sympathique que sont les Miroirs du Futur. Et je vous avouerai que j'ai ramené d'Épinal nombre d'interviews et de livres à lire. Et que, avant de pouvoir vous distiller tout cela, il me faut un petit peu de travail préparatoire. Donc, je reviens, dans un premier temps, sur le festival de Civray, avec des invités prestigieux. Civray, ça se situe entre Poitiers et Angoulême, en gros. C'était très loin de chez moi, j'ai mis 9 heures à y aller en voiture. Pas d'un seul coup, hein, j'ai fait une escale à Lyon. Je sais que vous vous inquiétez. Et ce petit festival de Civray était vraiment fort chaleureux et j'avais envie de vous en parler un petit peu. Parce que si vous habitez dans la région, je vous engage à ne pas rater la prochaine édition. En invité, on avait entre autres Aguerdal, Sarah Doak, Jean-Claude Duniac, Roland Wagner, Sylvie Denis, Claire et Robert Belmas, Gilles Francescano, Sandrine Gestin. Pas mal quand même. Je crois que ça vaut un déplacement. Les tables rondes étaient bien de bon niveau. Et il y avait également Yann Mine avec sa présentation du nauséum et du cybersexe, que je n'ai pas vu faute de temps. Mais Françoise vous en a touché un mot. Je vous engage à faire des petites recherches sur le nauséum sur Internet et on va laisser la parole à Yann Mine pour en savoir un petit peu plus.
Le spectacle qu'on a présenté, enfin c'est pas un spectacle, la conférence qu'on a présentée est quelque chose qui s'est construit petit à petit. On a fait d'ailleurs un groupe autour qui s'appelle Cyberesthésie et en fait c'est le Nouveau Muséum. Le Nouveau Muséum est un musée virtuel, un musée transmédia et hypermédia. C'est-à-dire que c'est un musée qui se répand dans différents endroits de l'Internet auquel on peut accéder à travers les mondes virtuels. Et j'utilise souvent la métaphore marine pour décrire le Nouveau Muséum. C'est-à-dire que c'est une sorte de vaisseau virtuel qu'on construit dans chaque endroit où on va. On transforme la salle de spectacle en nooscaf, en vaisseau de l'exploration noosphérique. Et ce qu'on vient de présenter, cette version du Nouveau Muséum, des galeries du Nouveau Muséum, était d'une part consacrée à la préhistoire de la cyberculture, c'est-à-dire tous les moments clés qui, dans notre histoire, qui amènent à la modernité dans laquelle nous vivons. Et puis il est intercalé avec des concerts exceptionnels d'Eric Wenger. Eric Wenger, c'est le créateur du logiciel Bryce. Et Eric utilise les logiciels de création de mondes virtuels. Il a transformé les mondes virtuels en instruments de musique. C'est-à-dire, il fabrique des objets virtuels qui active des sons, qui génère des sons, des séquences sonores, et en se promenant à l'intérieur du monde virtuel, il crée un morceau musical. Et avec Soizic, nous faisons une... Soizic S, qui est une créatrice photographe, qui est photographe, et qui travaille beaucoup sur l'érotisme et sur les, comment on va dire, dans le cadre du mouvement queer, on fait une démonstration de cybersexe, parce que ce qui est intéressant dans ce qui se produit au niveau du cybersexe actuellement, c'est qu'il est un prémisse de ce que le futur nous réserve et nous prépare au niveau des relations humaines, en particulier des relations physiques à distance, entre humains connectés.
Optimisation de rencontres futures ou remplacement. Parce que, non. En fait, ce qui fait peur, c'est ça, c'est que ça se devienne un remplacement.
Alors, cette peur est justifiée, c'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui ça peut devenir effectivement l'utilisation du cybersexe un remplacement. Ce que je disais à la conférence, d'ailleurs, il y a un truc qui est une réalité, c'est l'âge, la maladie font que tu ne peux pas avoir de relations sexuelles, tu vois, ou le handicap. Et effectivement, le cybersexe permet, et réellement, là, actuellement, j'ai rencontré sur Second Life une femme qui était à l'article de la mort et qui était dans un hôpital et qui avait une sexualité à travers l'Internet. Donc ça, c'est une des applications. Et c'est effectivement l'application bien pensante. C'est-à-dire, évidemment, on va sortir ça en disant, ben oui, mais il faut, c'est une sorte de, comment on va dire, de caritatif, de charité. Mais c'est pas que ça. C'est-à-dire, moi, je m'inscris en faux. Effectivement, c'est bien pour ça, mais pas seulement. C'est-à-dire, le cybersexe, c'est un vrai plaisir. C'est quelque chose qui vient s'ajouter à la sexualité, qui ne remplace pas la sexualité. C'est une autre forme de sensualité, d'émotion. Il n'y a pas besoin d'amour non plus. La justification d'être amoureux ou pas n'a pas d'importance. C'est le plaisir le plaisir des sens et des sens appareillés, c'est-à-dire c'est une sexualité appareillée qui existe en soi, qui va exister en soi, exactement comme il y a des gens qui vont faire du deltaplane ou des gens qui vont faire de la course de voiture, il y en a qui vont faire du cybersexe. C'est pas très simple d'ailleurs de faire du cybersexe, pour l'instant c'est assez compliqué. Et effectivement, dans le futur qui nous arrive, ça risque même de devenir un préalable, c'est-à-dire que je spécule un futur où nous serons effectivement limités dans nos déplacements pour des raisons tout bêtement écologiques et où les premières rencontres, les premiers contacts avec l'autre dont on sera amoureux, passera par des procédures de téléopération, de télédildonique entre autres. C'est-à-dire à la fois par la voix, c'est ce qui se passe actuellement, les gens ont des relations amoureuses déjà à travers simplement leur représentation dans les mondes virtuels. Il y a des couples qui se font, qui se défont à travers même des relations amoureuses avec leurs avatars. Et on va avoir aussi des relations sexuelles à travers des avatars. Et en fait, il faut l'assumer, c'est tout. C'est le futur vers lequel on se dirige. Mais derrière, il ne faut pas rêver. Il y a toujours l'humain. L'humain sera toujours là, quels que soient les outils qu'on utilise. Effectivement, il faut le dénoncer aussi. Mais moi, à ce moment-là, je remonte en arrière. Et je dis, quand vous prenez le volant de votre voiture, vous n'êtes déjà pas un humain. Vous avez déjà cessé d'être l'humain idéal que vous croyez. Vous devenez déjà l'organe de la machine. Et il faut juste apprendre à maîtriser la machine et pas se faire maîtriser par elle. Et 80% des gens qui utilisent leur automobile croient maîtriser leur automobile actuellement, mais ils ne la maîtrisent pas du tout. Dans le premier temps, c'est l'automobile qui nous maîtrise. C'est Marshall McLuhan qui met ça en évidence pour comprendre les médias. Il appelle ça la narcose narcissique. Et en fait, la narcose narcissique, c'est le fait que lorsque nous utilisons des outils, nous nous transformons. Nous devenons un être symbiotique avec la machine. Qui sommes-nous ? Là, on ne le sait pas. La grande quête de l'humain, c'est de savoir qui il est. Soit tu fais comme c'est le nautil, c'est autant de Socrate, qui te connais-toi toi-même. Mais on oublie toujours la suite de la phrase et tu connaîtras l'Olympe et les dieux. Ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire que soit tu es dans l'excellence et la relation là, tu es un dieu. Pour se connaître nous-mêmes, nous transcender à cet absolu-là, on est forcément divin. Donc on quitte l'humanité déjà. Donc comment l'humain sait qui il est ? Ben, l'humain sait qui il est quand il atteint ses limites. Notre technique pour savoir qui nous sommes, c'est d'aller droit au mur. Une fois que tu as percuté le mur, tu as compris qui tu es, parce que tu connais tes limites. Notre relation aux machines, c'est la même chose. Lorsque nous prenons le volant de la voiture, on ne sait pas qui on est avec la voiture. La voiture, c'est quelque chose qui amplifie la course, les jambes. En amplifiant les jambes et la course, elle amplifie les fonctions de prédation. Parce que quand est-ce que l'homme court ? Quand il chasse, il attaque et il combat. Donc la majorité des jeunes conducteurs et conductrices, lorsqu'ils sont au volant de leur voiture, ont tendance à succomber immédiatement au tropisme de compétition, de chasse et d'attaque. 5000 morts par an sur les routes. Et il va rentrer dans un état que Marshall McLuhan appelle la narcose narcissique. C'est-à-dire qu'il va rester fasciné par sa relation à l'objet, à l'outil, jusqu'à un moment où tout d'un coup, il arrive aux limites de sa relation, de nos relations de nous-mêmes avec l'outil, et on sort la narcose narcissique, et la voiture cesse d'avoir son imprégnation sur nous, son emprise sur nous. La voiture, c'est déjà un outil puissant. Hein, et on voit ce qu'elle provoque comme phénomène de possession technique. L'ordinateur, c'est une extension du cerveau. Donc la narcose narcissique avec l'ordinateur qui projette notre identité sur la planète entière à travers des outils, on projette notre parole, on projette notre identité, on projette notre regard sur la planète pour sortir de l'état de narcose narcissique, c'est-à-dire qu'on sait, qu'on a compris quelles sont nos limites avec l'ordinateur, il va falloir des années d'apprentissage, de pratique de la machine. Et il faut que les gens apprennent à apprendre les machines, apprennent à gérer leurs relations aux machines. Et là, actuellement, les parents ont peur, ils appellent ça de l'addiction. Comme avec la drogue, on a peur de cette emprise de l'informatique sur les jeunes générations. Ce qu'il faut penser à ce niveau-là, c'est que c'est pas comme une drogue. La drogue détruit, nous détruit. La narcose narcissique ne nous détruit pas. Lorsqu'on sort de l'état de la narcose narcissique, on ressort grandi d'une maîtrise de nous et de la machine. Alors que la dépendance à la drogue nous ressort détruit parce qu'on a explosé des neurones.
L'exemple typique à la télé, c'est quand même le jeune qui est en coupure totale avec la société, qui ne fait plus que de l'ordi. Et est-ce que c'est quand même une forme de destruction, ça? Tu peux pas le nier.
Alors oui, j'ai discuté avec un psychiatre de Marmottan et une psychiatre de Marmottan et un psychiatre à Nantes qui justement travaille sur les phénomènes d'addiction. Souvent la réponse est, dans les cas extrêmes, ces cas que tu décris, l'utilisation de l'outil n'est que l'expression d'un autre problème pathologique grave qui est lié à sa relation et à la famille. Enfin, on va retrouver en fait derrière cette chose qui est l'expression, il va utiliser l'ordinateur et les jeux vidéo pour exprimer quelque chose qui a des sources qui sont en fait assez traditionnelles en termes de pathologie psychiatrique. Et il ne faut pas aussi projeter les cas de pathologie psychiatrique sur l'ensemble des comportements des humains avec les ordinateurs. C'est-à-dire que là, les ordinateurs, c'est plus un truc anecdotique qui ne concerne que quelques petits geeks. C'est toute la planète qui est en train d'utiliser, en tout cas le monde industrialisé, les héritiers du monde industrialisé utilisent les ordinateurs. Et nous n'avons pas tous des comportements pathologiques avec l'ordinateur. Par contre, nous avons quasiment tous un comportement similaire que je décris, qui est la narcose narcissique, qui elle n'est pas une pathologie, n'est pas l'expression d'une pathologie, est un comportement normal, habituel de l'humain avec ses outils. Et donc il faut le discerner. Déjà il faut savoir qu'il existe cette espèce de ce phénomène de narcose qui est généré par l'utilisation d'outils. Alors c'est évident, la narcose narcissique dans nos relations avec un marteau, elle va s'arrêter très vite. Hein. On sait très vite qui on est avec un marteau. Hein, on va taper un certain nombre de fois. Voilà. Par contre, un autre exemple de narcose narcissique puissante, c'est notre relation à l'appareil photo. L'appareil photo, c'est pas une extension de l'œil, c'est une extension de la mémoire. C'est quelque chose qui amplifie nos capacités de mémoire. Donc il y a des gens qui vont effectivement, par exemple, ne plus vivre leur relation aux autres ou leur relation à leur voyage qu'à travers l'acte de photographier. Et il va falloir du temps pour qu'au bout d'un moment, on arrête de passer son temps à tout photographier. Parce qu'on aura compris quelles sont nos limites par rapport à nous-mêmes et le fait de mémoriser tout ce qui est éphémère. Parce que l'appareil photo est en relation directe avec notre peur de la mort, la peur de l'éphémérité. L'exorcisme, tout ce qui est impermanent, justement. C'est notre propre impermanence que nous exorcisons à travers l'acte de photographier. C'est des choses très puissantes. Les outils agissent très, très en profondeur. Tu vois, donc voilà, ça, c'est un outil puissant, l'appareil photo. Alors, tu vois, l'ordinateur, à quel point ça part dans tous les sens, puisque c'est un outil multimédia. C'est un outil qui permet d'agir sur plein de... qui est une extension à la fois de notre cerveau, mais de l'ensemble de nos capacités de communication, de nos possibilités de traitement de l'information. Donc du coup, la narcose narcissique avec l'informatique peut prendre toute une vie. Donc c'est ça dont il faut qu'on ait conscience.
Oui, bah, c'est toujours pareil, les nouveaux outils, il faut apprendre à les dépasser. Quoi.
Apprendre quelles sont nos limites dans notre relation avec eux.
Oui.
Tu vois ?
C'est une belle conclusion. Je ne sais pas vous, mais moi, je trouve Yan Min absolument passionnant et je regrette vraiment de ne pas avoir suivi ses conférences. Mais ce n'est que partie remise, je compte bien ne plus laisser passer ma chance. Place maintenant à Fred, un dessinateur de BD qui présentait son travail. Dessinateur de BD, graphiste.
Oui.
Comment tu es évidemment tombé dans le dessin avant même de savoir écrire ?
Ah, c'est à peu près en même temps, oui. Mais ça s'est vraiment développé fin du collège, début du lycée, où effectivement en cours, je dessinais plus que j'écrivais, oui.
quelle est ton aventure? J'ai vu que tu étais édité.
Oui.
Ça s'est déroulé comment? Comment est-ce qu'on... Parce que c'est la première fois que j'interviewe quelqu'un qui fait de la BD. Donc, dis-nous, je vais revenir un petit peu sur ce qu'on a dit ce matin à la conférence. Oui. Quelles sont les différences par rapport à un parcours d'écrivain, en gros?
C'est une excellente question, mais le parcours d'écrivain, je ne le connais pas très bien. Je connais les différences qu'il y a dans le milieu de l'édition, on va dire, et du travail que ça peut représenter. C'est-à-dire qu'on ne va pas voir, nous, un éditeur, avec un projet terminé. L'histoire est sous forme d'ébauche, on a un synopsis, et on va voir avec un maximum de 3, 5, 6 planches terminées ou à des étapes diverses. Voilà, on n'arrive pas avec un album de 64 pages sous le bras, terminé, à présenter avec un éditeur. Ça arrive assez rarement, disons. On peut toujours essayer, mais comme il risque d'y avoir des modifications, des choses à changer, et que de toute façon on n'est pas sûr de trouver un éditeur non plus, eh bien, voilà, il vaut mieux y arriver comme ça, avec un projet, simplement un dossier de présentation.
Oui, et puis ça semble logique, parce que le travail sur chaque planche est totalement gigantesque. Donc, si tu arrives avec quelque chose de fini et que c'est refusé, t'es mal, quoi.
Oui, c'est un peu ça le souci. D'autant plus là que donc je suis, pour l'édition sur iPhone, on est encore dans un format qui est très différent. Donc, si j'avais amené mes 64 planches terminées de façon standard, c'est certain, j'aurais dû tout reprendre depuis le début.
Parle-nous, explique-moi un petit peu là.
Oui, ben c'est très simple. Bon, une planche de bande dessinée classique, voilà, c'est une grande page, il y a plusieurs cases dessus. Et évidemment, ça ne rentre pas dans un écran d'iPhone. Donc pour l'iPhone, j'ai été obligé de revoir tous les formats des cases. Sur chaque écran, il y a une ou deux cases grand maximum.
D'accord. Ok. Je n'ai même pas demandé le titre de ta BD, c'est complètement nul de ma part.
Eh bien, ce sont les aventures du sergent Bork, voilà. Et donc, disponible sur Apple Store, donc ceux qui possèdent des iPhone, iPad et autres iPod Touch, voilà, doivent pouvoir y avoir accès.
Et ça traite de quoi? C'est donc livre d'aventure intergalactique.
Oui, oui, c'est à peu près ça. Voilà, ouais. Donc, je suis un grand fan de science-fiction. Et, le but ici, c'était d'avoir une série humoristique qui traite de science-fiction. Il y en a assez peu par rapport à l'heroic fantasy, par exemple. Et donc, en tant que grand fan, bien sûr, je prends un plaisir à replacer occasionnellement des grands classiques et à tourner un petit peu en dérision, non pas forcément la science-fiction, mais plutôt mon personnage, qui évidemment s'en sort moins bien que les héros classiques.
J'ai vu que tu faisais également un travail de graphiste. J'ai vu notamment de très beaux dessins de samouraïs. Donc ça, c'est un pan complètement différent de la BD. Comment est-ce que tu t'inscris dans les deux? Comment est-ce qu'ils se complètent?
Bon, ben, ils s'inscrivent dans les deux assez facilement. Les univers sont assez semblables, soit l'héroïque fantasy ou même le médiéval ou la science-fiction. Voilà, tout ça peut très bien fonctionner aussi bien en BD qu'en illustration. Voilà, c'est vrai qu'il y a marqué graphiste sur ma carte, mais à l'heure actuelle, je suis plus illustrateur. C'est-à-dire que je me contente vraiment de faire des illustrations. Et puis les gens, après, qui me payent pour l'illustration, font ce qu'ils veulent, soit des affiches, des cartes de jeu, enfin voilà, ils se débrouillent après.
Donc ça se passe comment? Tu fais un projet, les gens te les achètent, ou on te fait des commandes plutôt?
Oui, ben, plutôt des commandes. Après, évidemment, moi, quand je m'ennuie, voilà.
Après, tu vas sur les salons, et puis il y a des gens qui disent « Oh, c'est beau !» et c'est toujours agréable.
Exactement, oui.
Ne cherchez pas le sergent Bork de Fred avec 2D dans les bacs de votre BDiste préféré. Il n'est pas encore édité sur papier. Mais vous pouvez donc le trouver sur iPhone. Je savais même pas que ça existait. Mais bon, ça c'est un autre débat. On va terminer avec Françoise, l'organisatrice du festival, qui va donc boucler cet épisode consacré au miroir du futur. On n'est pas au terme du festival, mais si tu devais tirer un bilan.
Je dirais, si la campagne ne vient pas à la culture vient à la campagne. Voilà. Parce que Civray est un petit bourg de 3000 âmes, dans lequel il y a eu la très grande chance d'avoir des auteurs internationaux comme Ayerdal et Saradoc qui venaient de Bruxelles. des très grosses pointures comme Jean-Claude Duniac, comme Gilles Francescano, comme Richard Wagner, Sylvie Denis, pour ne nommer que, parce qu'il y en a eu plein, Roland Wagner, pardon. Non, ce n'est pas le compositeur, mais je fais toujours ce lapsus. Dieu sait pourquoi. Mais bon. Après, nous faisons le maximum pour montrer une autre culture, peut-être un peu underground avec les conférences de Yann, complètement décalé avec la conférence qui a lieu en ce moment, faite par Jean-Michel Levray, qui est un archéologue préhistorien qui a notamment travaillé à Genève et qui travaille actuellement dans un musée de Poitiers, sur les œuvres, sur les mystères de l'archéologie, et basé entre autres sur la collection privée de Robert Charroux, qui il y a une trentaine d'années, avait fait ou commis, suivant les personnes, des ouvrages sur le paranormal. Donc, notamment, nous avons des pierres d'Ica qui sont en présentation sur ce festival. Après, chacun pense ce qu'il en veut, mais malgré tout, c'est un scoop, c'est vraiment une exclusivité et c'est assez vrai.
Oui. Oui, vous avez eu tort de ne pas venir. Vous qui nous écoutez.
Tant pis pour vous, mais enfin, vous en aurez un compte rendu sur notre site, enfin, qui est un blog, Miroir avec un S du futur. Vous tapez ça sur Google, vous nous trouvez.
Oui, je confirme. Last but not least, il y avait également Antoine Lancou, auteur de la novella « Votre mort nous appartient » chez Griffe d'encre et de diverses nouvelles parues ici ou là, dont je vous livrerai l'interview dans un prochain épisode. Et enfin, on en arrive à notre nouvelle rubrique qui s'intitule « Les coups de cœur des lionnes ». De même que le retour du générique de « La mort qui tue » est dédié à Onirianne, le premier opus de cette rubrique est destiné à Arnaud. Voilà, ça c'est fait, j'ai pas oublié. Alors voilà. Qu'est-ce qui, dans mes dernières lectures, m'a marqué? Par exemple, si vous cherchez une lecture bien sympathique dans l'esprit de ce qui se faisait au fleuve noir, vous pouvez vous tourner vers L'île blanche de Patrick Lorrain, que j'ai dévoré, que j'ai trouvé bien sympa. Je vais vous parler, alors là, on passe quand même au niveau supérieur, du dernier Greg Bear chez Bragelonne, qui s'intitule « La cité à la fin des temps ». Là, c'est du gros. On atteint vraiment une science-fiction exigeante, ben, comme chez Greg Bear, hein, et vraiment très pointue. C'est un très très grand livre, je vous le conseille vraiment. Maintenant, ne croyez pas que vous allez le lire juste comme ça. Moi perso, j'y ai passé une semaine entière et pour moi c'est beaucoup. J'ai pas mal ramé, je l'ai trouvé difficile à lire, mais c'est vraiment un livre qui ouvre matière à réflexion. Et voilà, c'est du Greg Bear. De toute façon, j'adore Greg Bear, donc j'ai pas besoin d'en rajouter. Un autre auteur que j'adore réellement, c'est James Morrow. Et son apprenti du philosophe, Au diable Vauvert, est vraiment un très très grand livre. Le livre commence par un plantage complet d'un thésard en philosophie lors de sa soutenance. Il se heurte au président du jury, donc c'est toujours une mauvaise manière de faire. Et il finit par carrément abandonner sa soutenance en disant « je retire ma thèse ». Et cet homme va être engagé par une généticienne renommée pour faire l'éducation philosophique de sa fille, fille qui a perdu la mémoire lors d'un accident et qui a perdu totalement les notions de bien et de mal. Et donc, ce philosophe va se retrouver sur une île retirée paradisiaque avec cette fille et des gens en nombre très restreint. Et il va se retrouver confronté à un arbre conscient. Il va se retrouver confronté à un iguane parlant. Quelques manipulations génétiques tout à fait surprenantes. C'est du James Moreau. C'est drôle, c'est profond, c'est intelligent, c'est à lire absolument. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh, il y a Évadé de l'enfer de Aldon Kahn, que j'ai également beaucoup aimé, dans le style déjanté et lecture d'une traite. De quoi je pourrais vous parler encore? Oh, je ne sais, il y en a de nombreux. Cependant, je lis pas mal pour préparer le podcast. Aussi, je vais vous taire mes derniers coups de cœur pour vous en parler un petit peu plus tard. On a vraiment de la chance, il y a vraiment de bonnes choses qui sortent. Donc, en attendant le prochain épisode, faites-vous plaisir, lisez beaucoup.